Composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller, zéro déchet.
La fête de la récup, c'est sur Studio Zef.
Bonjour Zefeuses et Zefeurs pour une journée spéciale sur notre antenne. Il est 11h et jusqu'à 18h, nous serons en direct de la salle du jeu de paume à Blois à l'occasion de la deuxième fête de la récup organisée par Aglopolis, Valeco et avec la participation de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Toute la journée, nous allons donc parler récupération, réduction des déchets, solutions alternatives à la production de déchets. Pour cela, nous avons prévu un programme complet qui fait un tour assez exhaustif de ce qui existe autour de nous, à Blois et dans sa région, en termes de pratiques et de structures qui agissent concrètement et quotidiennement à la protection de notre environnement. Et pour ouvrir cette journée, je suis en plateau avec deux représentants des structures organisatrices. François Thiollet, bonjour.
Bonjour.
Et Monsieur Marie, je vous laisse vous présenter un petit peu vos fonctions dans qui vous êtes et un petit peu vos fonctions peut-être.
D'accord, allez-y. Alors je suis François Thiollet, je suis prof d'histoire géo au collège Augustin Thierry de Blois, mais je fais aussi un petit peu de politique et je suis vice-président d'Aglopolis en charge de la collecte des déchets.
D'accord, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui.
C'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui et qu'on organise cette fête de la récup.
Et donc pour vous, Monsieur Marie ?
Monsieur Marie, retraité, actif et président de Valeco, qui est la structure qui s'occupe essentiellement du traitement sur Aglopolis et quelques communes avoisinantes.
D'accord. Alors, est-ce que déjà, avant qu'on échange un petit peu sur les politiques locales en matière de gestion des déchets, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous présenter rapidement ce que va être cette journée ?
Alors, cette journée, c'est... On va peut-être expliquer un peu la genèse de cette journée. Il s'agit de promouvoir tout ce qui existe comme... alternative ou comme promotion pour aller vers la réduction de la production de déchets, la recyclerie, la réutilisation, les mises en place de politiques de zéro déchet qui existent sur le territoire. Parce que il existe plein d'initiatives qui sont soit d'initiatives d'entreprises, de privés, soit des initiatives qui sont associatives, soit des personnes qui, dans leur pratique au quotidien, défendre la promotion de telle ou telle pratique, le fait de plus utiliser d'emballage, des choses comme ça. Donc l'idée de cette journée de fête de la récup qui est organisée conjointement par Valeco et Aglopolis, c'est de réunir sur une journée toutes ces initiatives et de les présenter au public.
Voilà, le public qui vient de rentrer dans la salle
au
d'ailleurs.
Le public qui rentre au fur et à mesure, voilà, on dit bonjour aux gens qui passent en même temps.
Alors, on comprend bien les objectifs d'un tel événement. Plus concrètement, peut-être au niveau politique, quels sont les enjeux locaux autour de la question des déchets ?
D'abord, les enjeux ne sont pas que locaux.
Oui.
Cette fête de la récupération s'inscrit dans une opération de sensibilisation, mais qui s'effectue aussi dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Ça montre bien que le problème de la gestion des déchets est un problème planétaire, et s'il est crucial chez nous, il est crucial dans le monde entier, et il y a des endroits où c'est bien pire encore que chez nous. Ce ne doit pas nous consoler, loin de là. Donc ça correspond vraiment à un besoin, une stratégie. Il fut une époque où on produisait, on consommait et on jetait. Cette époque, elle est finie actuellement, et il faut que nous réagissions tous, parce que, sans entrer dans les détails aujourd'hui, l'avenir de notre planète, ou plutôt notre avenir sur cette planète, dépend aussi de ce genre d'action. Et c'est la raison pour laquelle des journées comme aujourd'hui, où nous espérons avoir autant de monde que l'année dernière, plus de personnes, et c'est très chouette que les gens viennent avec leurs enfants, c'est extrêmement important, parce que c'est bien pour eux qu'il faut que nous sauvions la planète aujourd'hui.
D'accord. Alors, vous parliez d'un grand nombre de visiteurs l'année dernière. Je crois à peu près environ 2000 personnes qui sont venues.
Oui, ça va être quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, voilà. Il est très difficile de donner un chiffre exact, mais 2000 personnes, c'est probable. Je viens de compter, c'est ouvert depuis 5 minutes. Il y a 150 personnes qui viennent de rentrer.
Voilà. Non, mais ça va vite. Alors, selon la préfecture, selon la préfecture, évidemment. Hein.
Non, selon les organisateurs, ce qui est tout aussi sujet à caution.
On est d'accord.
On avait été surpris l'année dernière de l'affluence. Oui. Parce qu'on pensait, on faisait ça un dimanche, On faisait ça alors directement sur le jeu de paume. Et c'est vrai qu'on avait été surpris du monde de personnes qu'il y a eu dans la journée, avec en plus une affluence qui a été permanente. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'attirait les gens à venir. Il y avait un peu des questionnaires qui avaient été faits, parce qu'il y a un espace de gratiféria, notamment où les gens peuvent apporter des choses et repartir avec. Mais c'est aussi, en effet, des sorties du dimanche en famille, où ils découvrent des gens qui, des fois, habitent à côté de chez eux et qui font... de la récupération, qui font de l'art avec des objets qui sont des déchets. C'est ça aussi qui mobilise et qui amène les personnes. Et ça, c'est plutôt très encourageant.
D'accord. Alors, peut-être on peut revenir sur la question de l'action politique en matière de gestion des déchets. Quels sont les objectifs que se sont fixés vos collectivités territoriales sur cette question ?
Alors, nos collectivités territoriales, elles ont des objectifs qui sont fixés par un cadre national et puis ensuite déclinés au niveau régional. La région vient de faire passer le plan régional de réduction des déchets qui donne aux collectivités des objectifs de réduction et puis en tout cas de développement de telle ou telle filière pour valoriser les déchets. Notamment, par exemple, dans les objectifs qu'a fixé la région, il y a la question du passage, d'encourager le passage à la redevance incitative. Pour Aglopolis Valeco, on n'en est pas à ce niveau-là. Pour Aglopolis Valeco, on est sur ce qu'on a fait depuis quelques années, hein, c'est, on est sur l'apport volontaire. Donc déjà, il faut aussi communiquer, expliquer sur l'apport volontaire par rapport à des gens qui, des fois, arrivent d'autres collectivités et qui sont habitués à du tri en porte-à-porte. On a l'impression que quand il y a de l'apport volontaire, il n'y a pas de tri qui est fait. Et il faut expliquer pourquoi l'apport volontaire est intéressant et pourquoi, même sur certains aspects, il est finalement plus intéressant que du tri en porte-à-porte. Parce qu'on arrive à une meilleure qualité de tri, parce qu'on peut faire du tri à proximité. Et par contre, il faut une communication permanente là-dessus pour que les gens trient réellement leurs déchets. On a aussi fait, il y a quelques années, maintenant, depuis 2 ans maintenant, on a réduit le nombre de collectes dans une grande partie du territoire d'Aglopolis Valeco. C'est-à-dire que là où on passait 2 fois par semaine, on passe maintenant 1 fois par semaine sur quasiment l'ensemble du territoire, à part l'hypercentre et les zones qui sont autour du centre de Blois.
Cette collecte, c'est pour les ordures ménagères ?
Ça, c'est pour les ordures ménagères. Et ça, on a communiqué pas mal avant de la mettre en place, parce qu'on craignait un peu des réticences, des difficultés. Et finalement... ça s'est passé plutôt facilement, avec plutôt des retours d'habitants qui étaient encourageants. Mais c'est aussi développer des politiques de tri dans des endroits où ça ne se fait pas naturellement. Pour vous donner un exemple, hier j'étais au lycée de Seigne. Dans les lycées, il y a du tri qui est mis en place quand il y a une volonté de le faire. Mais finalement, de toute façon, les poubelles des lycées et des administrations, elles sont collectées. Et ce n'est pas des poubelles qui sont payées, c'est la collectivité qui le prend en charge. Par contre, pour la collectivité, tout ce qu'on récupère dans nos déchets, nous, on le paye pour le faire passer à l'incinération. Et ça nous coûte relativement cher. Donc il y a aussi un enjeu financier de réduire la production de déchets.
D'accord. Et de ne pas être uniquement dans une question de tri, mais aussi de production régulée ou moindre de choses qui finissent dans les poubelles, en fait.
Il y a aussi le changement de regard sur des produits qu'on a longtemps considérés comme des déchets et qui sont des produits qui sont réutilisables, qui sont transformables. Un changement de regard dans les modes de consommation. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Un truc qui me tient à cœur, c'est la question des couches, par exemple. Vous voyez, les couches lavables. Moi, il y a 10 ans, la première fois que je me suis penché un peu là-dessus, c'était quelque chose d'exceptionnel qui était assez mal vu. Aujourd'hui, les gens prennent plus en plus conscience de la conséquence environnementale, de la consommation de couches jetables. Et donc, du coup, s'intéressent à ces pratiques-là. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt de promouvoir aussi des politiques vraiment du zéro déchet. C'est comment trouver des alternatives pour faire que du déchet, on en produise le moins possible.
Alors, et c'est vrai dans tous les domaines. L'exemple des couches est tout à fait significatif, mais on peut aussi s'élever et essayer de réduire les emballages qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, quand on parle de tri, il s'agit bien de trier des produits qui sont réutilisables et qui sont recyclables, tout simplement. Une bouteille de verre qui passe à un incinérateur, c'est quelque chose d'idiot. Il faut qu'elle soit réutilisée. Il fut un temps où c'était tout à fait dans les habitudes. C'est d'ailleurs pas dans le verre que le problème se pose de façon la plus évidente. Et ça peut se manifester de plein de manières. ne pas installer un composteur pour profiter des possibilités d'amendement de son petit bout de jardin est presque une erreur, on peut dire, actuellement. Pour dire que les domaines où nous pouvons réduire notre production de déchets sont multiples et les directives sont à la fois européennes et nationales. Et de ce côté-là, nous sommes aussi amenés à suivre.
Alors, on a fait un petit état des lieux, un petit peu de, en tout cas de la volonté politique au niveau local. Quels résultats vous obtenez jusqu'à présent en matière, notamment, vous parliez de volume qui part à l'incinérateur. Est-ce que vous voyez une diminution, une évolution ?
Alors, en chiffre global, alors c'est affiché sur des panneaux là-bas, hein. Il y a au niveau national, il y a 590 kg de déchets par personne qui est produit chaque année en France, dont environ 350 kg d'ordures ménagères. Au niveau des ordures ménagères sur Aglopolis, je crois que Valéco, c'est à peu près pareil, on est en dessous. On est autour de 280-290 kg oui. par personne ordures ménagères. Par contre, au niveau déchetterie, on est plutôt au-dessus parce qu'on a plutôt un réseau de déchetterie qui est relativement dense et en plus, on accueille tout le monde dans nos déchetteries sans véritablement contrôle. Ça fait partie des chantiers sur lesquels on est en train de travailler, la question de l'accès aux déchetteries, de la valorisation de certaines matières dans les déchetteries, parce que ce qu'on emmène dans les déchetteries, il y a là encore hein, la moitié qui est réutilisée, mais il y a la moitié qui finit à l'enfouissement et donc qui est définitivement abandonnée et qu'il faut payer. Et donc les résultats qu'on obtient, on a une baisse des déchets, de la production des déchets d'ordures ménagères qui est continue depuis une dizaine d'années. Sauf depuis le début de l'année 2018. Alors
ça nous interpelle.
Oui. Alors on s'est renseigné sur nos voisins et en fait c'est une hausse qu'on a au niveau national. Qui est sans doute lié en partie à la reprise d'activités économiques. Mais ça doit nous rendre humbles sur notre capacité à faire évoluer les choses. Parce qu'il y a une tendance de fond générale sur la réduction des déchets. Pour vous donner un autre exemple qui m'avait marqué, hein, quand on a construit l'incinérateur il y a presque 20 ans maintenant, ce qui était prévu au départ, c'était de passer de 80 000 à 150 000 tonnes, de doubler le nombre de volumes incinérés. Ça, c'est en 1995. Et en fait, aujourd'hui, hein, on est toujours à 90 000 tonnes. C'est-à-dire que l'évolution fait qu'on produit de toute façon moins de déchets. Il y a un changement des comportements qui se fait parce que les gens ils changent de comportement, parce qu'il y a des questions économiques. Mais ça, il faut l'accompagner, il faut l'anticiper parce que il faut que ça aille aussi plus rapidement.
Oui, pour conforter ce que dit François, là, il y a encore 10 ans, la communauté d'agglomération et les communes voisines alimentaient notre usine d'incinération ou de valorisation des déchets, parce que là, on peut en parler aussi, l'importance de valoriser les déchets, même nos ordures ménagères résiduelles. Nous en étions à 35-38 000 tonnes l'année dernière. Aglopolis et Valéco n'ont fourni, entre guillemets, que 28 000 tonnes à notre usine d'incinération.
Pour une population qui a augmenté sur le territoire.
Oui,
d'accord. Oui, il faut donner des proportions pour bien comprendre là.
Oui.
D'accord. En plateau, nous a rejoint Monsieur Richard Collinet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être ?
Voilà, Richard Collinet. Donc, moi, je suis membre élu de la Chambre des métiers et membre du bureau. Voilà. Donc, mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de promouvoir un peu les entreprises artisanales qui vont justement dans le sens de la valorisation des déchets, puisqu'ils font de la récupération en fait, et ils transforment ces métaux ou autre chose dans des matières complètement diverses et variées. Et je trouve que c'est quand même une bonne politique et une bonne interprétation par rapport à ces entreprises, parce que ça va dans le sens de ce qu'on va vivre aujourd'hui. Pour éviter que notre planète soit complètement envahie. Quoi.
D'accord.
Oui, l'implication... Pardon.
Allez-y, hein, Monsieur Marie.
L'implication de la Chambre des métiers, à la fois dans ce type de manifestation et dans d'autres actions, est fondamentale. Parce que ceux qui font les métiers, qui exercent et qui les adhérents à la Chambre des métiers sont des producteurs de déchets et le nombre d'actions que nous pouvons faire avec eux et qui peuvent être exemplaires par rapport à la clientèle des artisans et commerçants qui sont adhérents à la chambre de métier est absolument fondamental. Le rôle d'exemplarité qu'ils peuvent jouer est important. On a des exemples concrets du charcutier qui propose à ses clients de ramener les emballages, sans citer de marque, des tupperwares pour
non, on a le droit de citer la marque du charcutier. On n'a pas cité le nom du charcutier.
Oui, c'est le charcutier
c'est
de la
ville en Vienne.
Oui.
Il accepte que ses clients ramènent leurs propres contenants pour mettre les achats qu'ils font en boutique.
Voilà.
Ça, c'est, on en parlera tout à l'heure puisque ça correspond au label Ecodéfi qu'on mettait en place avec Valeco. Oui. On aura un plateau où on détaillera un petit peu les différentes possibilités, en tout cas les différentes propositions que Valeco et la Chambre des métiers mettent en place autour de cette action. Voilà. Moi, j'avais peut-être une autre question pour vous, c'est alors Monsieur Marie disait que les entreprises avaient un rôle à jouer là-dedans. Vous, comment vous voyez ce rôle-là en termes de réduction des déchets, de gestion, de réduction de la production de déchets.
Quand vous parlez rôle, c'est la rôle de Chambre des métiers ou c'est la rôle des gens en général
plutôt
des entreprises.
Plutôt le rôle des entreprises, on va dire.
Alors le rôle des entreprises, et c'est aussi fondamental que chacun de nous en fait. Hein. Ça passe aussi par eux, parce que nous, on le fait, on essaye de le faire quotidiennement. Donc, être relayé justement par les entreprises qui vont mettre en place ce phénomène, mais un petit peu quand même, c'est quand même important. Et notre rôle aussi à nous, c'est de pouvoir aller les voir justement pour intensifier ce qu'ils vont pouvoir mettre en place pour la revalorisation des déchets.
D'accord. Alors, il y a d'autres chambres professionnelles avec lesquelles vous pouvez être en lien ?
Nous, on est en lien avec la chambre, justement, au moins régionale. Hein.
Oui.
Donc, c'est l'Indre-et-Loire, c'est autres.
Hein. D'accord. Donc, et au niveau régional, est-ce que vous voyez qu'il y a aussi une mobilisation sur cette question ?
De toute façon, on n'est pas le seul département de la région à effectuer cette démarche.
D'accord. Hein. Très bien. Et
heureusement.
Oui, heureusement. Alors, vous avez exprimé un petit peu, on a un petit état des lieux. Pour vous, quels sont les projets à venir, ou en tout cas les axes d'amélioration que peuvent mettre en place vos différentes structures sur cette question de la réduction des déchets? Quelles sont concrètement les mobilisations à venir sur la question?
Alors, il y a une évolution législative européenne, nationale, qui font qu'on va être amené à travailler... très rapidement sur la question de ce qu'on appelle les fermentés cibles, c'est-à-dire tous les déchets qu'on peut composter, qui sont plutôt des déchets humides, et qu'on va avoir une obligation de récupération, en tout cas de proposer des solutions pour ces déchets-là à l'horizon du milieu des années 2020. Donc là, en fait, toutes les collectivités doivent aujourd'hui se pencher sur ces questions-là.
Ça, c'est-à-dire rendre obligatoire le tri, ou en tout cas la collecte.
Soit la collecte, soit ce qu'on fait déjà, hein, c'est fournir des composts là où c'est possible. Mais évidemment, quand on est dans un habitat collectif en ville, c'est compliqué de mettre en place du compost. Donc ça peut passer par la collecte.
On parlera de ça, de ces possibilités plus tard dans la journée aussi, oui.
Voilà, donc par exemple pour Aglopolis, on travaille sur l'hypothèse, dans le cadre aussi du plan climat, de développer de la méthanisation sur le territoire. Parce que ça peut être un exutoire pour du fermenté cible. Mais alors, ça, ce sera à l'horizon de 5-10 ans.
Donc ça fait partie. Juste peut-être pour les auditeurs, quand vous parlez de méthanisation, c'est-à-dire ?
Méthanisation, en fait, c'est le fait d'apporter des déchets qui sont fermentés cibles, issus de l'agriculture ou issus des productions des collectivités, qui passent dans un méthaniseur et qui permet de produire du gaz qui est du CH4, exactement le même gaz que le gaz naturel, ce qu'on met dans nos tuyaux, et d'alimenter les réseaux de distribution de gaz.
D'accord. Donc de transformer des déchets en gaz de ville.
De transformer des déchets fermentés cibles, c'est-à-dire des déchets qui, de toute façon, quand c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça, quand on les laisse à l'air libre, ils vont fermenter, ils vont dégager du CH4, et donc c'est récupérer ce CH4 pour l'utiliser pour la consommation quotidienne. Ça fait partie des pistes. L'autre piste, c'est la question on travaille actuellement déjà sur Aglopolis sur la question des déchetteries, de l'accès aux déchetteries, parce que on a une très forte demande sur les déchetteries avec régulièrement des difficultés, hein, notamment dans les fins de journée quand il faut fermer les portes des déchetteries et qu'il y a des gens qui attendent derrière. Ça, c'est des moments qui sont pas évidents pour les agents de déchetterie. Et puis le contrôle de savoir qui vient dans nos déchetteries et pourquoi faire. Il y a un aspect de fiscal, la question de mettre en place ou pas la redevance incitative, c'est quelque chose qui a
tendance...
Vous
pouvez la présenter, cette redevance?
Alors, la redevance incitative, c'est simple. Aujourd'hui, on a une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, c'est-à-dire que vous payez en fonction de la surface de ce que vous habitez, du foncier, en fait, votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et alors, évidemment, ce qui paraît pas très juste dans la taxe, c'est que plus votre foncier est large, même si vous êtes tout seul à habiter dedans, plus vous allez payer de taxes, même si vous produisez quasiment pas de déchets.
D'accord, c'est pas proportionné à la production,
voilà,
de déchets.
La redevance, alors il y a toujours une partie taxe. De toute façon, même là où la redevance elle est mise en place, il y a toujours une partie qui est taxe, parce qu'on peut considérer que les gens qui ont des plus grandes maisons, ils ont plus de moyens que des gens qui ont des toutes petites maisons. Mais par contre, la redevance, elle tient compte d'une partie de la production de ce que vous faites comme déchets. Et en général, c'est calculé de la façon suivante. C'est, on vous prend votre poubelle, vous avez le droit de mettre votre poubelle 52 fois dans l'année, une fois par semaine. Si vous mettez plus, du coup, vous allez payer plus. Et alors, des fois, après, il y a des régions qui sont même à moins. Hein. Et donc, du coup, ça incite les gens. Parce que c'est ça l'intérêt de la redevance, c'est que là où c'est mis en place, la réduction, elle est de 30 à 50% direct. Par contre, ça peut avoir un effet pervers si c'est mal mis en place, c'est qu'on retrouve des déchets dans la nature. Et ça, il faut l'éviter. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est intéressant à développer, mais sur lequel il faut aussi prendre le temps de mettre en place si on veut aller par là.
Et parce que ça demande un contrôle derrière.
Ça demande un contrôle et puis ça demande un accompagnement, parce que l'expérience plutôt politique que moi j'ai, enfin, c'est-à-dire que on change pas les habitudes des gens de façon brutale. L'exemple hier des gilets jaunes et des taxes diesel. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut augmenter les taxes sur les carburants. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas d'accompagnement pour développer les alternatives, aider les gens à faire autrement, en fait, on se retrouve dans des situations de blocage où les gens ils sont dans un refus. Et pour les poubelles, c'est exactement pareil. Si d'un seul coup, on dit on va passer à la redevance incitative, faites-le, sinon vous allez être puni, on va vous taxer plus, on va avoir un effet de rejet massif de la population. Donc, il faut trouver les moyens d'accompagner les populations. Et donc, peut-être que ce n'est pas la redevance incitative qu'on va mettre en place tout de suite, mais par contre, on va multiplier les points de tri, on va réduire le nombre de passages de collecte et on va développer des alternatives qui vont être mieux perçues par les habitants. Et une fois que tout le monde sera convaincu, bah ouais, on passera à la redevance incitative.
D'accord. Et vous, donc du coup, du côté de Valeco, quels sont les projets
Heureusement que Valeco et Aglopolis ont la même philosophie et les mêmes projets. On travaille totalement de concert parce que nos actions sont parfaitement complémentaires et il serait impensable que nos objectifs, d'ailleurs, qui sont fixés, comme François le disait, par des directives qui nous viennent de nos autorités, je dirais. Donc, nous n'avons pas le choix. Mais en même temps, si la collectivité n'y croyait pas, ce serait grave et dangereux. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des enjeux auxquels nous ne pouvons pas échapper actuellement, tout simplement.
D'accord, très bien. Ben, je vous remercie pour votre temps.
Merci à vous.
On aura l'occasion de détailler un certain nombre de sujets que vous avez abordés là, puisque pour la Chambre des métiers et de l'artisanat seront présents donc l'atelier Talents Croisés. Vous avez un stand ici, vous pouvez le présenter en quelques mots?
Ben moi, disons que ce n'est pas vraiment le stand que je connais le plus.
D'accord.
Donc, ça va être compliqué. Mais disons que l'idée, c'est toujours de la récupération. Donc, on va prendre des tissus, on va prendre des choses que les gens ne veulent plus. Voilà, et on va pas les transformer en autre chose, là. On va rester toujours, en fait, dans la confection de vêtements.
D'accord.
Tout simplement.
OK.
On voulait inviter comme invité d'honneur aujourd'hui celui qui a dit le premier l'adage rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça pourrait être le label de la journée. Malheureusement, il est mort depuis un temps, puisque c'était Lavoisier en 1789.
Voilà.
Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que le problème se pose, visiblement.
D'accord. Et donc oui, comme je disais juste avant, on aura l'occasion de parler un petit peu de différents sujets qu'on a commencé à aborder rapidement. Donc la réparation, le compost, ça va être vraiment la réduction des déchets, la récupération, ça va être le fil conducteur de notre émission aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Ce que je vous propose, je propose aux auditeurs, et puis si vous voulez rester, en profiter, d'écouter un témoignage d'une personne qui pratique le zéro déchet chez elle, qui est donc dans cette démarche-là, qui est présente aujourd'hui sur la fête de la récup. Donc Pauline Bénard, naturopathe, qui pratique donc le zéro déchet. Elle nous explique un petit peu ce que ça veut dire et en quoi ça consiste. Et elle finira pour nous donner quelques astuces du quotidien afin de tendre à cet objectif. Je vous remercie encore d'être venu vous exprimer au micro. Et puis, je donne rendez-vous aux éditeurs dans environ, vers midi pour qu'on commence un premier plateau avec nos invités qui sont les exposants qui sont présents ici et qui créent à partir des choses qu'ils ont récupérées qui ont été jetées.
Merci à vous. Merci à Studio Zef d'animer cette journée.
Voilà.
Merci de nous avoir donné la parole.
Composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller, zéro déchet.
La fête de la récup, c'est sur Studio Zef.
Donc moi je suis Pauline Bénard, je suis naturopathe. Je travaille essentiellement sur la zone de Blois et les villes aux alentours. Je réalise aussi bien des consultations individuelles où le but principal, on va dire, c'est d'entretenir la santé ou de faire comprendre pourquoi dans certaines situations le corps réagit de telle façon. Ça peut être un eczéma, ça peut être des problèmes gastriques, ça peut être des migraines. Donc mon but, ça va être de trouver la cause du problème et de mettre en place après avec la personne des réformes, des protocoles en m'aidant de certaines disciplines telles que l'hygiène alimentaire, la phytothérapie, l'aromathérapie, l'iridologie. Donc l'iridologie, c'est l'étude de l'iris. Et à côté, je réalise des ateliers collectifs et je participe à des manifestations qui rentrent en corrélation avec mes valeurs, tout comme ma participation auprès de Valeco et Aglopolis pour la fête de la récup pour la seconde année.
Alors vous allez nous parler d'astuces du quotidien pour réduire, voire pour supprimer la production de déchets au sein de la maison. C'est ce qu'on appelle le zéro déchet.
Oui.
Est-ce que déjà, tout d'abord, vous pouvez nous dire ce que ça veut dire concrètement ?
Alors le zéro déchet, alors c'est deux mots, ça veut pas dire ne plus faire de déchets, ça veut dire d'essayer de limiter, de réduire nos déchets à travers notre façon de consommer. On peut dire que si on s'intéresse à cette alternative, il va falloir changer aussi notre façon de consommer.
Comment est-ce que vous pratiquez cette méthode, le zéro déchet au quotidien ?
À travers mon foyer, déjà, j'ai toujours été sensible tout ce qui était au vivant, les hommes, les végétaux, les animaux. Après, je pense qu'aujourd'hui, mon parcours s'est construit au cours de ma vie, avec des expériences, des rencontres que j'ai faites. Ça s'est fait vraiment progressivement. Ça s'est réalisé surtout quand j'ai commencé mes études en naturopathie. Et ça s'est confirmé lors de l'arrivée de mes enfants, on va dire. Après, chaque personne est différente, donc chaque parcours est différent. Moi, j'ai commencé ma base par le souhait de manger plus sainement. Du coup, j'ai utilisé des produits bruts, le moins transformés possible. Après, je me suis orientée par les méthodes de cuisson et de conservation. Donc, je me suis interrogée sur tout ce qui était papier d'alu, le film alimentaire, le plastique et les dégâts qu'il pouvait y avoir sur l'organisme et l'écologie. Et donc, en cherchant des alternatives, j'ai découvert le zéro déchet. Et du coup, j'ai commencé par réaliser des petits changements. Alors, j'ai commencé par la lessive. J'ai fait la lessive maison à base de savon de Marseille. Et puis après, j'en ai fait quelques mois et je voulais changer. Donc, j'ai fait la lessive oliaire. J'ai changé mon dentifrice, mes produits cosmétiques, l'utilisation par exemple en cuisine de certains matériaux comme le verre ou l'inox qui sont beaucoup plus écologiques. Je me suis intéressée aussi aux bocaux, ce qui permet de stocker, donc limiter les déchets en achetant par le vrac. Quand on commence, on croit qu'il faut tout jeter. C'est pas la peine de tout jeter, je pense, parce que c'est important aussi de garder. Ça serait pas très écologique si on jetait tout. Par exemple, moi j'ai gardé mes boîtes en plastique, ça me sert de stockage pour mes légumes, où j'ai fait des compartiments dans mon frigo. Après, tout ce qui est par exemple moules qui sont en silicone, que nous on aime bien avoir dans notre foyer, qui sont en forme de fleurs, de cœurs, de Père Noël, c'est pareil, c'est pas très bon pour la santé une fois qu'on les chauffe, là on peut les réutiliser par exemple en faisant des savons maison. Voilà, c'est de trouver d'autres alternatives d'utilisation de ces objets en fait.
Quel conseil vous donneriez-vous pour commencer le zéro déchet?
Alors j'en aurais peut-être deux conseils ou trois conseils. Allez, la première c'est se poser la question pourquoi je le fais ou pourquoi j'ai envie de le faire. Si c'est parce que j'ai vu par exemple une naturopathe à la fête de la récup en faire, c'est pas une bonne raison. Chaque personne a des valeurs, des sensibilités différentes. Et il y en a qui vont le faire pour la santé. Moi, j'ai commencé pour ça. Il y en a qui vont le faire par éthique, pour les animaux. Il y en a qui vont le faire par leur religion, d'autres pour des raisons financières. Tout se corrèle. Mais je pense qu'il faut vraiment savoir pourquoi on a envie de se lancer là-dedans. Et ça va être vraiment, je pense, les fondements de notre base, nos changements quand ça sera un peu plus dur après. Parce que changer des choses dans nos quotidiens, nos habitudes, c'est pas un parcours facile des fois. Et c'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Donc ça serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ça serait avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même. Quand on rentre dans une démarche de changement comme le zéro déchet ou le minimalisme ou des choses comme ceci, on souhaite tout de suite bien faire. Surtout nous les mamans. Au début c'est facile, mais au fur et à mesure, en fonction des différents facteurs, ce qui se passe dans nos vies, on peut régresser, même faire des choix qu'on voulait plus faire. Et je pense qu'il faut s'accorder ce retour en arrière. On a mis des années à fonctionner dans une société de consommation qui nous pousse à fonctionner d'une certaine manière. Et du coup, je pense que lorsqu'on a vraiment eu un déclic et qu'on fait des choses parce qu'on a une raison, on a le droit de s'accorder du recul et beaucoup de bienveillance dans certains moments de vie. Ça fait aussi du bien dans l'organisme, des fois, de lâcher et de ne pas vouloir toujours bien faire. Et un troisième conseil, je partirais sur l'ego, je pense, parce que certaines personnes croient bien faire. Certains pensent que même peuvent faire ressentir qu'ils sont un peu supérieurs. Je pense qu'il faut redescendre. C'est pas parce qu'une personne fait sa lessive maison, son dentifrice, des petits plats ou s'intéresse au traitement des déchets, on va dire, qu'elle fait mieux que les autres. Je pense que on peut très bien se retrouver devant une personne qui fait rien de tout ça, mais à contrario, peut-être qu'à son temps, elle est bénévole pour une association, ou peut-être que c'est une personne qui travaille pour les énergies plus vertes. Peut-être qu'il y a quelques heures, elle a fait un petit don à un SDF d'un euro. Donc on est tous différents, et je pense que quand la personne a bon cœur, elle œuvre forcément pour des choses bien. Donc il n'y a pas de petite action. Donc je pense que ça serait mes trois conseils de base, on va dire.
Et de façon plus concrète, parce que là c'est vrai que c'est plus des convictions que vous voulez faire passer, je dirais de façon plus concrète, par quelles petites actions de réduction des déchets dans la maison on pourrait commencer pour tendre vers le zéro déchet?
Je pense que ça va vraiment dépendre en fonction de pourquoi la personne le fait. Par exemple, une femme qui veut le faire pour sa santé, elle va s'interroger sur tout ce qui peut nuire à la santé dans son logement. Donc elle va peut-être s'intéresser, je sais pas, aux serviettes hygiéniques. Donc selon sa sensibilisation, elle va peut-être se tourner vers des serviettes hygiéniques non jetables, des cotons-tiges non jetables. Si elle a une sensibilisation sur tout ce qui est aussi mode et tout ça, il y a vraiment des matériaux qui rentrent en corrélation avec le zéro déchet. Donc ça va vraiment, je pense, dépendre de pourquoi la personne le fait, en fait. Et de où elle veut commencer à le mettre en place, en fait. Si c'est en cuisine, voilà, comme je disais tout à l'heure, elle va revoir peu à peu tout le matériel qu'elle utilise au quotidien pour essayer de trouver des alternatives.
Donc vous parlez santé. Est-ce que vous pourriez nous donner une recette facile à mettre en œuvre sur de la cosmétique ou de l'hygiène, par exemple?
Oui. Bah, du coup, par téléphone, une petite recette, ça peut être tout ce qui est à base de... alors, soit un dentifrice maison, soit un déodorant maison, très très facile. Acheter de l'huile de coco vierge de première pression à froid. Au lieu d'utiliser voilà des bonbons avec des gaz, on peut utiliser tout simplement de l'huile de coco à mettre sous les bras. Après, pour faire, imaginons, sa lessive maison, si on aime bien aller se promener avec les enfants ou en famille, on peut aller ramasser du lierre. Il faut à peu près aller 50 feuilles de lierre pour 1 litre d'eau. Et voilà, on le fait chauffer à ébullition. On attend que ça refroidisse. On le met en bouteille en verre et on a de la lessive maison, en fait. Il y a des choses toutes simples comme ça qu'on peut faire. Une maman qui aime bien coudre ou même un homme, il peut construire soi-même des tawashi, donc c'est des ustensiles pour laver la vaisselle ou laver les vitres. On peut construire des charlottes alimentaires pour faire des alternatives aux films alimentaires. Voilà, c'est des petites choses faciles à mettre en place. Et qui demande pas beaucoup de temps et de d'impact financier, on va dire, parce que souvent on pense que il y a un impact financier quand on change des choses. Il y a des choses toutes simples qui, par exemple la lessive de lierre, il y a que l'eau qu'il faut à la limite et un petit peu d'électricité pour faire chauffer l'eau, c'est tout quoi.
D'accord. Alors dernière question, qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile à ne pas changer? Quelle habitude a été la plus difficile à modifier pour réduire les déchets?
Bonne question. Je ne sais pas comme ça. Ce qui a été le plus difficile, pour moi, ce qui était le plus difficile, on va dire que c'est les habitudes de vie. C'est pas concrètement du matériel ou des choses comme ceci. C'est vraiment... les changements de planning, des horaires atypiques ou des choses comme ça, en fait, ça va être vraiment, c'est ça qui est le plus difficile. C'est les habitudes de vie, on va dire. Une personne, on est tous dans une société de consommation avec des choses faciles à notre portée. Et le plus difficile, c'est de changer ces habitudes-là en fonction de nos plannings à chacun, en fait. Tout le monde n'a pas forcément beaucoup de temps. Ou alors il y a des personnes qui ont beaucoup de temps. Voilà, je pense que c'est plus difficile, c'est de trouver le temps et de s'organiser pour le réaliser, en fait.
Très bien, je vous remercie pour ces informations. Et puis, en effet, on se retrouve sur la manifestation à votre stand pour continuer à échanger avec vous sur cette question.
Je vous en prie, merci à vous.
Et puis, au revoir, à bientôt.
Merci, au revoir.
Composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller, zéro déchet.
La fête de la récup, c'est sur Studio Zeph.